France Inter. Mathilde Munoz.
Il est 6h21. Retour sur Terre réussi pour les deux astronautes américains qui étaient coincés dans la Station Spatiale Internationale. Ils devaient rester 8 jours. Ils y ont passé plus de 9 mois. Une affaire qui a mis en lumière évidemment l'essor du secteur privé dans l'industrie spatiale et la rivalité entre SpaceX et Boeing. Mais aussi l'instrumentalisation politique de cette affaire par Elon Musk. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin le patron de l'Agence Spatiale Française. Bonjour Lionel Suchet.
Bonjour.
Vous êtes le président du CNES. D'abord, comment vont-ils ces deux astronautes?
Écoutez, ils vont bien, comme les équipages qui rentrent d'un vol de longue durée. Ils sont en bonne forme parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux efforts médicaux, les maintenir en bonne forme pendant de longues durées sur la station. Ils sont fatigués parce que c'est la fin de leur voyage. Ils ont passé des nuits blanches là-bas à préparer leur retour, donc ils sont un peu fatigués, mais en bonne forme.
Mais 9 mois dans l'espace, ça modifie pas le corps?
Alors, ça peut modifier le corps si on n'y fait pas attention, mais justement, on a appris beaucoup depuis des dizaines d'années sur les vols de longue durée, et en faisant du sport, en surveillant son état de santé, il y a 2 heures de sport par jour, on arrive à maintenir le corps en bonne santé pour le retour sur Terre. C'est quelque chose qui a été appris sur les vols de très longue durée avec les Russes et puis les Américains.
Et c'est exceptionnel de rester aussi longtemps, 9 mois?
Alors, c'est en général, les équipages partent pour 6 mois, donc 6 mois, 9 mois, c'est à peu près équivalent, donc c'est un temps normal sur la station. Le record, je crois, c'est Valery Polyakov, un cosmonaute russe qui a passé presque 15 mois dans l'espace, donc beaucoup plus longtemps, mais le temps normal d'un équipage aujourd'hui sur la Station Spatiale Internationale, c'est 6 mois.
Et à aucun moment, ils ont été en danger là-haut?
Non, parce qu'il y a 6 mois, justement, quand ils n'ont pas pu rentrer avec le vaisseau qui pilotait pour aller vers la station, on les a intégrés, en fait, dans un équipage normal de la station. Plutôt que d'envoyer 4 cosmonautes, on en a envoyé 2. Et eux-mêmes ont fait les deux suivants. Donc, ils ont créé un équipage à 4. Et c'est cet équipage à 4 qui, aujourd'hui, a été relevé par un nouvel équipage à 4. Et avec leur vaisseau qui était déjà amarré à la station, donc, s'ils avaient dû rentrer pour une raison de sécurité ou autre, ils auraient pu rentrer. Mm-hmm. Leur vaisseau était amarré à la station. Ils sont rentrés normalement, comme rentre un équipage normal de la station, sur un rythme opérationnel normal.
Donc Donald Trump et Elon Musk ont dramatisé la situation, parce qu'ils ont encore dit récemment que Joe Biden les avait abandonnés. Même hier soir, la Maison-Blanche a tweeté « promesse tenue », sous-entendu « voilà, nous on les ramène », alors que Joe Biden ne l'a pas fait.
Personne ne les avait abandonnés. La mission qui est partie, c'était pas une mission de sauvetage, c'était une mission de remplacement de l'équipage. Oui, tout ça a été monté en épingle.
Alors, ce que cette affaire a révélé, c'est la bataille entre SpaceX, d'Elon Musk et Boeing. Parce que si les astronautes n'ont pas pu rentrer à temps comme prévu au tout début, c'est à cause de défaillance du propulseur développé par Boeing. Et c'est un appareil de SpaceX qui les a ramenés sur Terre. Donc, Elon Musk fait clairement la course en tête. Musk 1, Boeing 0.
Mais sur ce sujet-là, c'est sûr que le fait que les moteurs du Starliner de Boeing n'aient pas fonctionné normalement, c'est un coup dur pour Boeing. C'était le premier vol d'essai habité de ce vaisseau. Il n'a pas rempli complètement sa fonction. Ceci dit, son retour en automatique s'est bien passé. Mais oui, c'est une guerre commerciale parce que le spatial, y compris le spatial habité en orbite basse, se développe sur des bases commerciales. Et les entreprises commerciales se font la guerre par rapport à ça, bien sûr.
Et les acteurs privés qui sont devenus incontournables, pour vous, c'est un risque ou une chance pour le spatial?
Ah, c'est une chance parce que ça permet de développer une économie spatiale qui était liée à une économie quand même très fermée, liée à la science et à la défense. Ces domaines-là continuent à se développer, se développent beaucoup, mais en plus, il y a toute une économie ouverte parce que le spatial aujourd'hui répond à des enjeux de pêche, climat, aménagement du territoire, sécurité. Donc il y a tout un pan de l'économie qui tire parti du spatial et donc ça tire une économie ouverte avec des investisseurs, des privés qui se mettent dans cette activité, qui développent des services, qui développent des structures spatiales. Et ça, c'est une nouvelle dimension du spatial qui se développe. D'ailleurs, l'Europe et la France en fait partie, bien sûr.
C'est ce que j'allais vous demander. En Europe aussi, il y a cet essor économique lié au spatial?
Ah oui, l'année dernière, on a eu à peu près une start-up par semaine qui s'est créée en France autour du spatial.
Mais si elle ferme 6 mois après, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ce sont des entreprises qui restent à long terme?
Je vous dis, aujourd'hui, toutes les activités économiques, quelque part, peuvent tirer parti des données spatiales. On mesure la Terre, l'atmosphère, les océans, dans toutes les longueurs d'onde aujourd'hui, grâce à des missions spatiales très sophistiquées. On a la capacité, grâce à la révolution numérique, de traiter ces données en masse, de les corréler avec des données in situ mesurées sur place. Donc, toutes ces données sont très utiles pour tout un tas d'applications et c'est des développements très importants, pas pour le spatial, pour l'économie terrestre.
Mais vous diriez que l'Europe, elle joue dans la même cour quand même que les Américains, ou on est quand même en dessous?
Alors, il y a une différence d'investissement. Les États-Unis investissent à peu près 6 fois plus d'argent tous les ans que l'Europe tout entière. Avec ce différentiel, je veux dire, on n'a pas à rougir, parce qu'on a toutes les capacités aujourd'hui en Europe pour développer des missions spatiales de premier rang mondial, que ce soit en science, en défense, ou pour l'observation de la Terre et l'économie.
On va vous évoquer la défense, justement, avec tous ces conflits dans le monde, ce désordre mondial actuel. Est-ce que la défense, le renseignement, c'est l'enjeu numéro un du spatial en ce moment ?
C'est un des enjeux importants, puisque le spatial devient de plus en plus stratégique pour des raisons de défense, mais aussi pour des raisons économiques maintenant. Et donc les pays sont bien conscients qu'il faut développer le spatial et se protéger d'une éventuelle agression spatiale dans l'espace. Donc tous ces sujets-là...
Oui, carrément, c'est-à-dire qu'un conflit pourrait aller être dans l'espace. Moi, je pensais plutôt à la défense, des outils qu'on envoie là-haut qui nous permettent de faire la guerre en bas.
Alors, les outils qu'on envoie là-haut permettent d'avoir des informations très précieuses pour faire la guerre en bas, comme vous dites. Mais du coup, ce sont aussi des cibles dans un conflit potentiel. Et demain, s'il y avait un conflit généralisé, les moyens spatiaux pourraient être aussi mis en danger, et donc il faut surveiller ces moyens et les protéger.
Lionel Suchet, on assiste depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche à un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Ça se voit aussi dans le domaine du spatial, puisque on l'a appris hier, il y a l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour la coopération entre pays étrangers qui a dit qu'il aimerait discuter avec Elon Musk des vols vers Mars. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ce serait une bonne chose selon vous?
Alors c'est crédible, parce que les États-Unis comme la Russie, ce sont deux grands pays spatiaux, donc ils peuvent tout à fait coopérer. Est-ce que ça serait une bonne chose? Vous savez, on est passé dans des phases différentes dans l'histoire du spatial, entre des phases de course, de conflit, de course à la Lune par exemple, de course au premier homme dans l'espace, à des phases de coopération. L'ISS, c'est une phase de coopération où les Russes travaillent ensemble avec les États-Unis. Donc utiliser le spatial comme un outil de coopération mondiale plutôt que comme un outil de conflictualité, je trouve que c'est assez intéressant.
Merci beaucoup Lionel Suchet, président du CNES et invité du 5-7.
Merci.